Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Bayeul, votre émission dédiée à l'actualité du RCT. Avec moi aujourd'hui pour cette émission, Michel Perrier. Michel, bonjour.
Bonjour.
Et Philippe Bercia. Philippe, bonjour.
Bonjour, Nance.
Tous les trois, on va évidemment revenir sur cette très très belle victoire des Toulonnais. C'était samedi à Mayol face à Montpellier, 54-7. Le retour complet sur le match, les tops, les flops, même s'il y aura probablement plus de tops que de flops cette semaine. Et puis on parlera justement des actus de la semaine et du déplacement dimanche à Bayonne. Tribune Bayeul, ça commence maintenant. Et on va regarder d'abord un résumé de ce match, et le mot résumé porte bien son nom. On n'a pas pu mettre tous les essais des Toulonnais tellement il y en avait, avec un début de match canon hein, pour Toulon, qui marque par Gaël Dréhan, puis par Duncan Payoa. Et juste avant la mi-temps, c'est Gabin Villière qui marque comme un avant pour le 21-0. En deuxième mi-temps, Toulon continue de dérouler, marque encore avant une petite réaction de Montpellier, mais ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Jaminet conclut le récital toulonnais avec un essai, score final 54-7. Messieurs, vous me contredirez pas si je vous dis qu'on a vu le meilleur match du RCT de la saison, je pense, on peut le dire.
Sans conteste, sans le conteste. Plus abouti.
C'est clair.
De loin. Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans cette équipe toulonnaise samedi après-midi?
Moi, personnellement, l'engagement. Je crois qu'on n'avait plus depuis quelques temps, même depuis 2-3 mois. Je pense aussi, c'est vrai que Baptiste Sorin, c'est vraiment le leader de ce groupe, tout simplement. Mais c'est vrai que c'était surtout l'engagement, que ce soit en attaque, en défense. On a été, je pense, bien plus performants que les semaines précédentes.
On a retrouvé une équipe avec des vertus qui nous ressemblent, des vertus qu'on attend sur le terrain. Donc à partir de là, tout est mieux. Tout est mieux. D'un coup, tout s'embellit. On a retrouvé un guide avec la lumière de Serein. Et on a métamorphosé cette équipe en une semaine. Hein. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. C'est le miracle du printemps qui est peut-être en train de s'accomplir. On ne sait pas. Michel, tu pourras nous en parler parce que tu as vécu la même situation en 92.
Ah, c'est clair.
On souhaite la même fin, hein, sincèrement.
Oui, comme on disait, hein, la vérité, elle est sur le terrain. Elle n'est pas ailleurs.
Et justement, les Toulonnais, ils avaient quand même la pression parce que on sortait de ce triptyque là, Castres, Pau, Racing, où ça avait été compliqué. Il y avait eu la victoire contre Perpignan à la maison, mais qui paraissait quand même plutôt logique. Pression maximale, parce que les Montpellierains, en cas de victoire, passaient devant les Toulonnais. Et finalement, là, la pression, ces dernières semaines, on avait la sensation qu'ils la géraient assez mal. Comment on explique que là, d'un coup, ça a plutôt bien tourné, ça a même très très bien tourné, et très rapidement dans le match?
À mon avis, il y a plusieurs explications. On s'est évité une crise de nerfs parce qu'ils étaient au pied du mur et il fallait vraiment qu'ils franchissent l'obstacle. Mais il y a le retour des leaders qui incontestablement a joué un rôle important. Il y a aussi sans doute le discours de crise de la semaine où le président a parlé à tous les joueurs et leur a peut-être les a mis en face de leurs responsabilités. Et sans doute aussi Pierrot qui a repris les choses en main, qui a remis la main sur son vestiaire d'une manière ou d'une autre. Donc tout est relancé d'un coup de baguette magique. On peut maintenant se remettre à rêver.
Est-ce qu'on peut commencer peut-être d'abord par parler du 8 de devant, qui a été énorme, on va détailler, mais déjà ça commence par là, le rugby, on le répète toutes les semaines, on a retrouvé un 8 de devant conquérant qu'on avait perdu un peu ces dernières semaines quand même.
Ah oui, je pense que c'était pas peut-être le
problème principal.
C'était pas le problème principal, c'est vrai.
C'est quand même, je pense que depuis le début de saison... Ils sont pas non plus, on va pas dire, c'était le secteur le plus déficient de ce groupe.
À part les légers problèmes en touche qui ont été un peu récurrents, la mêlée a quand même fait son boulot.
Après, quand même très efficace dans les grattages, hein, on a récupéré des ballons, donc voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on a quand même le début de saison sur ça, je pense que c'était pas le principal problème. On a une deuxième ligne qui est performante, on a une troisième ligne. Bon, après, quand tu as les complé. Internationaux qui reviennent,
forcément.
C'est clair que voilà,
ça
fait la différence. Et puis bon, comme je l'ai expliqué, je pense que Baptiste Sorin et on va dire le joueur qui dynamise ce groupe, quoi. Tu le vois quand il rentre. Bon, après,
c'est le leader de vestiaire, c'est le leader de jeu, c'est le leader tout court, le patron. Au-delà même d'Olivon, hein, qui est un support important.
C'est un sacré match, Charles Olivon aussi. Ouais. On peut parler quand même de la deuxième ligne. La première ligne a connu quelques difficultés de touche mêlée. Bon, ça a été, on va dire, à 50-50 avec Montpellier, mais la deuxième ligne, Alanouézé, qu'on retrouve, qui était un peu.
Alanouézé qui était dans le trou et qu'on l'a retrouvé dans l'énergie et il s'est remis à avancer. Ça fait plaisir. Quant à Ribans, il a été égal à lui-même. Et Ribans, c'est vraiment la bonne pioche de l'année avec Abadi. Et c'est un joueur qui apporte beaucoup, sur lequel on va pouvoir encore compter.
Quand on a une deuxième comme ça, on peut voyager, Michel.
Ah ouais, non, mais après, c'est clair. Bon, après, c'est. un souci, quand même, le deuxième
a
fait comme, ouais, quand même beaucoup de matchs. Hein. Il a fait la Coupe du Monde, que peut-être il a un peu un creux. Voilà, hein, c'est compliqué aussi. Hein. Donc là, c'est vrai que bon, il est beaucoup plus performant. Et tant mieux pour nous. Hein.
Bon, alors, on a commencé déjà à l'évoquer. On va rentrer dans le vif du sujet dès la 30e minute. La blessure de Ben White, on pourra y revenir. On espère qu'évidemment, c'est pas grave pour le demi de mêlée écossais, mais surtout l'entrée en jeu de Baptiste Serein, qui s'attendait peut-être pas à jouer autant de minutes dans ce match. On n'a pas senti un joueur qui revenait de blessure. Hein. On a senti un joueur qui était la semaine dernière déjà là sur le terrain.
Hein. Pas du tout. En plus, moi, j'avais un peu d'inquiétude, quand même, un peu d'appréhension. J'aurais pas dû, parce que c'est lui qui devrait en avoir de l'appréhension. Mais on l'a vu remettre les mains dans des rucks, refaire comme s'il n'était jamais sorti du terrain. Il est revenu comme il était en fin novembre. On a retrouvé l'équipe de fin novembre avec la présence de Serein. Un miracle.
Après, c'est son jeu, hein, c'est un dynamiteur. Hein. Voilà, donc c'est son esprit, tout simplement. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'il rentre à la 30e minute.
Oui,
donc,
il y avait déjà 21-0.
Il faut aussi, faut penser aussi à Ben White qui est
sorti. Bon,
bien sûr.
On a vu que la charnière, quand les avant avancent, fait toujours des matchs corrects. C'est beaucoup plus facile.
C'est beaucoup plus.
Mais c'est vrai qu'on a senti un Baptiste Serein aussi, et vous le disiez, Philippe, pas timoré, pas un pas timoré. Qui a repris ses
responsabilités. Aucune appréhension, il est rentré sur le terrain comme s'il n'était jamais sorti. Voilà.
Oui. Alors je vous pose la question, mais je suis obligé de la poser. Est-ce qu'il y a malgré tout pas une Serein dépendance au RCT? Pierre Mignoni le balaye souvent de la main quand on lui a dit ça, mais force est de constater quand même que les quatre derniers matchs.
Je crois que Pirou peut compter sur lui, il peut le remercier. Et c'est compliqué de dire qu'il n'y a pas de Serein dépendance quand même. C'est tellement évident, ça saute aux yeux. Quoi. Ouais.
Là où souvent on évoque une Dupont dépendance à Toulouse, elle n'a pas paru évidente.
Non.
Elle paraît un peu plus évidente peut-être au RCT.
Tout à fait. Peut-être au Racing, il y a une Le Gaille dépendance aussi, qui a souffert beaucoup de son absence.
Et bizarrement, c'est demi de mêlée. Hein.
C'est les mettre à jouer quand même. C'est pas des postes anodins. Hein.
Oui.
Et alors comment on règle ça, entre guillemets, est-ce que c'est possible de
le régler? On a vu qu'il n'était pas arrivé à régler le problème sans Serein. Hein. Pierrot, il a essayé des choses. Il n'avait peut-être pas les joueurs qu'il fallait. À ce moment-là, ce n'était pas la bonne dynamique. Mais le problème, il s'est réglé naturellement avec le retour de Serein. Mais il n'y avait pas d'autre solution, a priori, à Toulon aujourd'hui. On a cherché, on ne l'a pas trouvé.
Mmh. Compliqué. Clair.
C'est bien compliqué.
On l'a constaté.
Constaté que c'est compliqué.
Tant mieux pour nous. Hein.
On a fait le 8 de devant, on a fait la charnière, les trois quarts se sont régalés. Ils sont rentrés dans cette défense montpelliéraine, on peut y revenir comme dans
le beurre. Comme pour la charnière, quand les avants avancent, les trois quarts courent plus vite et ils trouvent des espaces.
On a la sensation aussi qu'ils ont pris un peu leurs responsabilités. Déjà ces dernières semaines, je pense à des joueurs comme Duncan Payoua qui ont parlé dans la presse, mais qui ont agi derrière contre Perpignan déjà. Il n'était pas là pour
le faire. On a vu vraiment une différence entre l'équipe de ces dernières semaines et l'équipe qui rentre sur le terrain, qui a gagné son match dans les 10 premières minutes. Hein. Je veux dire, cette défense de fer qu'ils ont mis en place, cette agressivité, ça a éteint les Montpelliérains, qui en plus, en prenant un essai juste avant la mi-temps, ne sont pas rentrés du vestiaire. Hein. Ils ne sont pas revenus en deuxième mi-temps. Mais ce match-là aurait pu tout à fait tourner différemment si le RCT n'avait pas fait le job en début de rencontre. Hein.
À Montpellier, ils ont eu 4 occasions, après 4 temps forts, et bon, ils se sont cassés les dents.
La défense qui est revenue aussi, tous les matchs.
La défense, on a avancé en défense, on a avancé en attaque. Quand tu arrives après contact à faire vivre le ballon, eh ben, ça ouvre des brèches, hein, et t'avances, et ça change la donne.
Parmi les 3 quarts, on a retrouvé un joueur, c'est Gabin Villière. 4 grattages pour lui, c'est énorme hein, pour un ailier. Un essai de talonneur presque, hein, puisqu'au milieu du ruck, il va marquer. Comment vous l'avez trouvé, Gabin Villière? Retrouvé même.
Après c'est son jeu, hein. c'est un joueur qui a toujours été très engagé sur le terrain, et on retrouve, je pense, son état d'esprit qu'il avait avant la Coupe du Monde.
C'est-à-dire ça fait quelques semaines qu'il monte en pression, qu'il se met la pression lui-même d'ailleurs, et là il commence à récolter les fruits de son travail. Il recommence à retrouver du rythme, des sensations, et ça va juste avec l'équipe, donc c'est parfait.
On a la sensation que tous les retours arrivent au bon moment. Les retours des internationaux, les retours des blessés, le retour en forme.
Le RCT n'est pas une équipe d'hiver, c'est une évidence. Il a toujours eu des problèmes hier. Mais et en plus, c'est
une équipe comme le Muguet.
Qui aime le printemps. C'est pareil, le Muguet refleurit toujours au printemps. C'est vraiment un truc qui est avéré avec le RCT sur 30 ans. Sur 30 ans, on regarde toutes les saisons, il y a des creux tous les hivers et des remonter tous les printemps. Ouais. Ils ne sont pas forcément suffisants. Hein.
Mais voilà, maintenant, on ne peut plus se le permettre.
Alors, le championnat est tellement resserré, c'est très très compliqué là.
Oui, on va y revenir sur cette course au top 6. Un dernier mot peut-être sur les performances individuelles aussi, sur Melvin Jaminet, qui lui confirme, alors déjà au pied impérial, même dans le jeu, on le sent beaucoup plus à l'aise quand devant ça joue bien aussi.
Comme Gabin, il monte en puissance.
Il y avait une acclimatisation. Il faut qu'il il change de club en cours de saison. Il a un temps d'adaptation.
On accorde une année d'acclimatation aux Nouveaux-Zélandais, on peut donner 15 jours à un Français.
Oui.
Et dernière question sur Montpellier, est-ce que vous avez été déçu un peu de la prestation de Montpellier qui était sur une énorme série, qui remontait bien, qui est arrivé un peu costaud à Mayol? S'attendait quand même à une autre...
C'est vrai, mais bon, je veux dire, le gros match, c'est Toulon qui l'a fait.
Ouais.
Donc effectivement, s'il y avait Willem-C en face, qu'il y avait vraiment des gros porteurs, peut-être on aurait pu souffrir physiquement, mais là on a tellement pris l'ascendant physiquement que Montpellier n'a pas existé. Alors on peut être un peu déçu par la prestation, mais sur le moment on est content que Montpellier n'existe pas, tout simplement.
Mais c'est vrai, moi il me faisait peur au match. C'est vrai qu'ils étaient quand même sur une dynamique.
Je pense pas que grand monde aurait parié sur un 54 à 7 dans le match. C'est Montpellier, c'est une grosse dynamique. Ils avaient des ambitions annoncées de vouloir venir gagner à Mayol.
Ils se sont cassés les dents. À un moment, ils ont dominé, ils n'ont pas marqué. Et après,
on imagine que dans la tête, c'est dur. Ouais.
C'est très dur.
Et voilà. Par sortie des vestiaires, c'est la sensation qu'on
ils
en a eu.
Ils sont parvenus, ouais.
Avec notamment cet essai aussi qui a été refusé, qui aurait pu peut-être éventuellement les relancer, même si ça paraît compliqué, mais en tout cas cet essai refusé,
on peut quand même aussi être très content d'avoir pris ce bonus, parce qu'on se rend compte qu'il est très important.
Et puis t'as rien lâché jusqu'à la fin quand tu vois.
Et cette dernière action où ils lâchent rien sur leur ligne, c'est symptomatique de vraiment un nouvel état d'esprit, une nouvelle volonté, et ça fait plaisir.
C'est clair.
De retour dans Tribune Mayol avec mes deux invités, on continue de débriefer cette rencontre entre Toulon et Montpellier. Je vous propose déjà qu'on écoute Andrea Massi, le coach des trois quarts toulonnais, le coach de l'attaque, comme on dit maintenant, en conférence de presse d'après-match.
L'état d'esprit, la solidarité qu'ils ont eue pendant tous les matchs, pendant toute la semaine en fait, parce que c'était la meilleure semaine de la saison. Où on a travaillé très dur, mais aussi on était très très unis comme groupe. Je pense qu'on a bien bien préparé ce match et au final on prend du plaisir sur le terrain. On sait qu'il y a énormément de choses qu'on doit améliorer, mais on continue à travailler. On veut construire, on veut faire quelque chose d'incroyable, mais il faut du temps, il faut du travail, il faut de la consistance.
Il a été beaucoup critiqué, Andrea Massi, son plan de jeu. On n'avait pas l'impression que ça se ressentait sur le terrain. C'est une petite revanche aussi pour lui, quand là on inscrit cet essai. Il y a des essais d'avant, des essais de trois quarts, il y a du jeu. Son travail commence à porter ses fruits selon vous, Michel?
Après, moi je sais pas si ça porte. Mais après, moi, c'est quand même un état d'esprit. Je veux dire, il y a quelques semaines en arrière, quand on disait qu'on voyait un joueur qui courait à côté de...
Oui. D'ailleurs, Andrea Massi met en avant la solidarité. La solidarité
qui fait l'équipe. Quand tu vois quand même à la fin du match que l'essai et l'autre, il ne marque pas parce qu'il défend comme un mort de faim pour ne pas être... Voilà, l'état d'esprit, c'est plus le même état d'esprit. Donc, ça change tout. Hein.
Selon vous, alors on l'a dit.
La vie des groupes est compliquée. La dynamique des groupes, c'est compliqué. Il y a eu une année Coupe du Monde aussi qui a perturbé forcément le fonctionnement de nombreuses équipes, dont celle de Toulon. Hein. Et bon, tout ça fait qu'on a eu un championnat un peu bizarre avec des hauts et des bas de tous les côtés. Et heureusement, d'ailleurs, on en bénéficie parce qu'il y a des équipes qui sont dans le dur comme on l'a été.
Oui, comme la Rochelle.
Et on se retrouve, on arrive sur le sprint final et il y a un embouteillage de 8 équipes ou 10 équipes qui peuvent prétendre au top 6. C'est la beauté du top 14.
Et justement, ma question, est-ce que Toulon est de retour? On a senti que Toulon n'y était plus pendant un moment. On a même parlé, à un moment donné, de jouer le maintien. Hein,
il va falloir quand même confirmer pour vraiment lancer la dynamique. Mais sur cette base-là, il suffit d'aller gagner à Anoeta. Et puis, tout va s'arranger.
Michel, est-ce que Toulon est de retour?
Il faut confirmer, comme dit Philippe. Ouais. Et peut-être que les Bayonnais, derrière. Le seul match qu'ils ont perdu, ils l'avaient délocalisé.
Ça tombe bien.
Ça peut peut-être nous aider, mais bon, après, c'est clair. Quoi.
Je préfère les jouer à Noëta qu'à Jean Daugé.
Tu m'as chanté des fêtes. Il faut mettre compliqué. Les mêmes ingrédients, parce que c'est sûr que si tu ne mets pas les mêmes ingrédients, c'est même pas la peine. C'est clair.
Factuellement, il reste 3 réceptions, 4 déplacements. Bon, parmi ces 3 réceptions, il y en aura une au Stade Vélodrome contre le Stade Toulousain. Pour vous, le top 6 aujourd'hui, Toulon est 5e actuellement, il est encore largement jouable pour les Toulonnais.
À l'instar des autres équipes qui peuvent y prétendre, beaucoup d'équipes peuvent encore prétendre au top 6. Et celles qui sont 3e aujourd'hui peuvent finir 10e demain. Donc, tout va se jouer dans ces deux matchs l'avenir là. Si on va gagner à Bayonne et qu'on est capable de battre Toulouse au Vélodrome, alors là on va être très très bien placé.
Alors on va parler un petit peu des actus de la semaine, parce qu'il y en a eu. On n'a pas eu d'émission la semaine dernière, donc on n'a pas pu débriefer. L'annonce du départ de Bruce Devaux, qui rejoindra Perpignan la saison prochaine, rejoindra un certain Franck Azéma qui a eu du nez, qui est allé le chercher. Qu'est-ce que vous en pensez? On a beaucoup parlé de ce sujet dans la presse, Pierre Mignoni et Bernard Lemaitre qui se sont exprimés aussi. Déjà vous, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que Bruce Devaux ne prolongera pas avec le RCT?
Déjà, Michel, qui pourrait être son père, va en parler.
Bon, après, j'ai un peu suivi. Une semaine avant, il était toulonnais. Une semaine après,
il est perpignanais.
Entre-temps, a priori, on lui a dit qu'il sera que numéro 3. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être... Voilà, il a des ambitions. Ça peut se comprendre qu'il veut aller ailleurs en lui promettant peut-être...
Vraisemblablement un rôle de numéro 1 à Perpignan,
mais bon, c'est ce qu'il devrait attendre. C'est la vérité du terrain. Bon, après, Bruce Devaux, franchement, les matchs qu'il a fait depuis qu'il est en première, il n'a jamais déçu, il a été même très bon. C'est comme nous, à une certaine époque, t'avais des joueurs, Jean-Michel Casalini, qui étaient des remplaçants de luxe, mais quand ils jouaient, c'était des joueurs exceptionnels sur le terrain, c'était même les meilleurs. Donc c'est vrai que maintenant, ça a changé, c'est un pro. C'est dommage, ça c'est clair, parce que bon, c'est quand même un joueur qui a été formé à Toulon.
Un de plus.
Mais après, moi, mon expérience, j'ai joué 18 ans au niveau, j'ai joué 15 ans à Toulon. Je suis parti 2 ans, 3 ans à Toulon et je m'en suis pas porté plus mal.
Oui, c'est sûr que...
Donc ça va être quand même une très bonne expérience pour lui aussi. Mm-hmm. Après, oui, c'est dommage qu'on le garde pas, parce que c'est... Mais bon, après, c'est son choix. Hein.
C'est exactement ça, c'est son choix. Il faut qu'il assume et il faut que ce soit le bon choix pour lui aussi.
Voilà, c'est le secteur où les Toulonnais étaient le mieux armés, parce qu'avec Jean-Baptiste Gros, Dany Prizot et...
Oui, sauf qu'il y a quand même 2 susceptibles d'aller en équipe de France en même temps, et de Gros va se retrouver à poil. Donc il y a quand même un problème, là.
Hein. Ben, Toulon va devoir recruter. C'est un peu le paradoxe.
Et puis les droits aussi, ça serait bien qu'il y ait un vrai remplaçant à Gigashvili.
Bien sûr. Mais de toute façon...
À moins que Mimi veuille refaire le tour.
Vous avez le CV, Michel, pour la saison prochaine. Une fin de match, 5 minutes, vous rentrez tranquille.
Une seconde.
Et on a appris sur Bruce Devaux, pas de...
C'est dommage.
Non, c'est dommage. Maintenant, le club a mal communiqué, parce qu'il a laissé la rumeur s'installer, comme s'il avait fait partir Bruce Devaux, alors que c'était pas du tout l'intention du club. Donc ça a créé un malaise inutile, en vérité. C'est le monde professionnel qui est sifflé, il faut respecter le choix de Bruce Devaux.
C'est ça.
Et chapeau à Franck Azéma, qui a senti à un moment donné qu'il y avait une opportunité à saisir. Il le connaît, j'imagine. Ouais, enfin, évidemment.
Nous aussi, on le connaît, on sait toutes ses qualités.
Un autre départ, celui de Vaïséa, qui semblerait va laisser moins de regrets que Bruce Devaux sur la rade.
Forcément, on ne le connaît pas, Vaïséa. On nous a annoncé un joueur qu'on n'a jamais vu. Donc,
on ne sait pas
qui va s'en aller, en vérité.
On l'a vu quand même l'année dernière. C'est vrai que.
Fin de saison dernière.
Il avait fait quand même des belles prestations. Parce qu'après, c'est vrai qu'en termes.
Il fallait qu'il se fasse remarquer avant la Coupe du Monde.
Ouais, en jeu.
Il a tout donné à la Coupe du
Monde. Après, c'est vrai que là. Abonné, absent.
Dommage, c'est un grand joueur, incontestablement.
Très grand joueur.
Après, il a 33 ans aussi.
Bien sûr.
Peut-être qu'il a atteint son pic et qu'il est en train de...
Ça sent la fin de l'aventure avec tout le monde.
C'est quand même toujours compliqué. Quand t'as une saison avec la Coupe du Monde, les joueurs, ils reviennent, ils sont fatigués, ils sont déçus, euphoriques. Mais c'est toujours quand même compliqué. Et depuis longtemps, je pense.
Dernière question avant de passer sur Bayonne. Demain, Bernard Lemaitre va rencontrer des supporters. On annonce, enfin en tout cas, 500 supporters qui ont été invités au campus. Est-ce que c'est l'heure de la réconciliation? Ça s'est fait sur le terrain. Il est temps que ça se fasse aussi avec le président et les supporters.
Ouais, il faut l'espérer. C'est une réunion qui a été annoncée avant le match. Malheureusement, elle a été un peu court-circuitée par une intervention du président sur une chaîne YouTube inconnue, où il a dévoilé à peu près tout ce qu'il allait dire à cette réunion auprès des supporters. Donc je ne sais pas comment ça va se passer mardi, s'il y aura des gens dans la salle, si le président va être chahuté ou pas. En tout cas, il mérite le respect. Il faut quand même maintenant qu'on lève un peu le pied sur, sur la critique, parce qu'il y a, un coup à jouer et l'union sacrée doit être décrétée maintenant. Mm-hmm. L'exemple est venu du terrain. À partir de moment où l'exemple vient du terrain, tout peut s'arranger derrière.
L'union sacrée, Michel, c'est ce qu'il
y a. Il y a une règle d'or.
Oui.
Le président préside, l'entraîneur entraîne, le joueur joue et le supporter supporte. Donc, bon. C'est normal aussi qu'il y ait des critiques. La critique, ben, faut qu'elle soit positive, qu'elle soit constructive. Mm-hmm. Après, deux fois, quand même, ça va un peu, quand même, un peu loin dans... Voilà.
Et on verra ce que ça donnera demain, voilà, cette réunion.
Et je voudrais juste dire un petit mot, parce que tu vois, donc, les supporters ou les internautes... Moi, je travaille le jour des matchs sur la pelouse, le jardinier. Il y a eu quand même une réflexion. Ils ont changé les jardiniers. La pelouse, c'est vrai qu'actuellement, est en très bon état. Donc, je vais répondre aux internautes. Non, le jardinier n'a pas changé. C'est toujours les mêmes. Et ils font un très bon travail. Voilà. Donc après, quand ils sont ironiques, moi, je le supporte très mal.
Je comprends.
Voilà. Et mes collègues, ils l'ont supporté aussi très mal. Voilà, bon, c'est pas très grave. Hein.
Non, mais
respect pour le président, respect pour les jardiniers.
Mais voilà, mais donc.
Je sais qu'elle est compliquée, cette pelouse de Bayeul.
Très compliquée. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'ils viennent faire une réunion avec nous pour leur faire voir qu'est-ce que c'est la pelouse à Bayeul.
Avec le parking juste en dessous, pour pas le préciser.
Petite précision.
Le message est passé. Le message est passé, Michel. On a commencé un petit peu à parler de ce match, mais rapidement, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour prendre Bayeul? Et surtout dans le meilleur stade, on l'a dit, Bayonne, c'est 28 matchs à domicile d'affilée remportés, mais à domicile à Noëta, à Jean Daugé, pardon. Il y a eu une défaite à Noëta la saison dernière face à Pau, Toulon, à l'instar de Toulouse ou La Rochelle, qui va l'an dernier, La Rochelle est venue gagner au Vélodrome, pas vraiment à Bayonne. Toulon pourrait-il s'imposer à Noëta? Est-ce que c'est le moment parfait?
C'est le moment parfait, maintenant il faut le faire.
Oui, c'est clair. Voilà. Mais non, oui.
Un dimanche à 21h, ça va être une grosse fête.
Et là, il faut confirmer. Il faut confirmer. Et je pense quand même qu'on a les ingrédients. Bon, après, eux aussi, quand même.
Les Bayonnais ressemblent de plus en plus aux Castrés, quand même.
C'est particulièrement virulent. C'est devant, ça joue. Mais après, si tu mets les mêmes ingrédients avec, en défense, tu recules pas d'un millimètre, ils empêchent de jouer. Ou alors, quand ils marquent, ils vont marquer même à la dernière seconde, le mec, tu l'envoies en touche et il marque pas. Donc voilà, si tu veux garder ta terre inviolée, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, c'est les ingrédients qu'il faut mettre. Donc
il faut d'autant plus le gagner ce match qu'on va être en danger contre Toulouse au Vélodrome. Donc pour s'enlever cette pression, pour rester dans le positif, il faut gagner ce match. Parce que si on gagne ce match, à 15 jours ou 3 semaines pour préparer dans l'euphorie ou presque Toulouse, ça change un peu la donne. Si on le perd, on sait qu'on retombe au plus bas en cas de défaite contre Toulouse. Ça perturberait vraiment la préparation.
Je pense. Et ça pourra probablement aider un peu la billetterie du Vélodrome.
Sans parler de la billetterie.
Il y a la Coupe d'Europe
avant.
Et là, on peut remercier l'URCT d'avoir échoué dans sa mission.
Ouais, ça va donner du repos aux Toulonnais pour préparer ce match. Ouais. C'est tout le mal qu'on souhaite aux Toulonnais de s'imposer dimanche à Noëta. Et nous, avant de se quitter, on regarde les résultats des autres clubs sportifs dans le département. Et on commence avec du rugby, la défaite de Yerkerkiran face à Tarbes 24 à 19, la Seine qui regoute à la victoire 16 à 15 et le 15 du Coudon qui s'impose également 14 à 9. En foot, défaite des Toulonnais contre Jurassul de 2 buts à 1, défaite des Yerrois à Chamalières 2 buts à 1 également, Fréjus qui s'impose 3 à 0 face à Thonon et Vian. En futsal, défaite en Coupe de France des Toulonnais qui sont éliminés face à Laval 9-0, défaite de Saint-Raphaël en handball 39 à 37 face à Nîmes et le basket, le HTV qui continue de croire en la montée en Pro B, victoire 68 à 64. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer, on l'espère, une victoire des Toulonnais en terre basque.